Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse
exclusivement de la musique country
avec Charles Lemoine
et Thomas Révoy.
Salut à tous, c'est Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country. Popcorn et Banjo s'inscrit dans le créneau Vive le cinéma de Aligre FM 93.1. À ma gauche, Charles Lemoine, superviseur musical, journaliste et photographe. Salut Charles.
Salut Thomas.
Et moi-même, Thomas Révoy, réalisateur, journaliste et photographe. Comme vous le savez peut-être déjà, nous sommes tous les deux cinéphiles et nous croyons autant dans le support physique que dans le dématérialisé. L'émission d'aujourd'hui sera un spécial, Charles qui me taquine, un spécial Junya Sato, un autre cinéaste japonais, qui sera un petit peu le revers de la médaille de cette Jun Suzuki, de styles très différents et de studios aussi très différents. Et puis, côté musique, vous découvrirez bien ce que vous découvrirez. Et moi, je le découvrirai aussi, puisque je ne sais pas encore ce que Charles va nous jouer. Voilà, voilà. Popcorn et Banjo, la 21e, c'est sur Aligre FM 93.1. Et c'est parti.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet.
Tâchez d'éviter ces explosions d'injures et de mots orduriers qui ne peuvent que gâter une affaire.
Je n'ai jamais vu quelqu'un tuer un poisson comme vous l'avez fait.
Alors vous n'avez jamais rien vu.
Junya Sato, un cinéaste japonais, 1932-2019, qui a réalisé 38 longs métrages. Junya Sato, il est diplômé de littérature française. C'est donc, avant d'être un artisan chevronné du cinéma, un intellectuel, n'est-ce pas? Et non pas qu'on puisse pas être les deux, mais j'avais envie de placer ça. Il est extrêmement reconnu pour ses blockbusters. C'est vraiment, si vous voulez, le grand cinéaste japonais des années 70 qui signe les films à très très gros budget à l'époque. Hein. Des gros films catastrophes, des gros films d'action. Une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il va travailler avec la Toei. Au Japon, on avait déjà un petit peu expliqué ça dans le podcast précédent sur Seijun Suzuki. Il existe plusieurs studios majeurs, hein, la Toho, la Toei, la Nikkatsu, et tous ces studios, un petit peu comme le système américain des années 30, 50, emploient des acteurs, des réalisateurs, des équipes en fait, qui travaillent exclusivement pour ces studios-là. Junya Sato, il va travailler pour la Toei. Et donc la Toei, c'est le gros studio japonais qui est connu notamment pour les films qu'ils ont fait avec Sonny Chiba. Sonny Chiba, ça parle peut-être à ceux qui ont vu la saga The Street Fighter. Je crois que le coffret DVD, il est orange et jaune, il était assez classe. C'est des films de kung-fu, d'arts martiaux, d'ailleurs c'est pas du Kung Fu qu'il fallait faire, un autre art martial qui m'échappe, assez violent, assez dur, avec Sonny Chiba qui fait des bruits toujours avant de frapper ses adversaires, des trucs genre un peu comme The Grudge, tu vois. Et quand même à noter que le deuxième film de The Street Fighter, hein, qui s'appelle Return of the Street Fighter, en français, et il s'appelle Autant on emporte mon Nunchaku.
Ah oui.
Voilà, donc je trouve que c'est pas inintéressant de noter qu'il existe des exploitants qui titrent des films de cette manière-là. La Toei, connu pour donc Street Fighter. Est-ce que c'est pas lui qui joue le maître dans Kill Bill d'ailleurs? J'ai un doute, à vérifier.
C'est une très bonne question.
Je me demande si c'est pas lui. Tu peux regarder, ou peut-être c'est le mec qui joue là dans La Rage du Tigre.
Ah non, dans Kill Bill 2, c'est...
Lo Yen, non. Enfin, ça c'est le plus réel, mais...
Dans Kill Bill 2, le maître, c'est celui qui joue dans La 36e Chambre.
Ah ok, ouais, donc c'est pas Sonny Chiba. Voilà, donc la Toei, ils sont aussi connus, hein, notamment pour produire... Ah, c'est Gordon Liu, merci, absolument.
Ouais, Sonny Chiba.
Torienzo,
il joue le maître épéiste, celui qui forge l'épée.
Ah mais voilà, je savais bien qu'il avait un lien avec Tarantino. La Toei, aussi connue, hein, notamment pour avoir produit les films de Yakuza, de Fukasaku notamment. Voilà, donc un studio tourné vers l'action, et qui va évidemment... employé régulièrement et à répétition, Junya Sato. Junya Sato qui aussi a travaillé sur un film qui s'appelle Sur la route de la soie, qui m'intrigue beaucoup à titre personnel parce que c'est adapté d'un... Enfin, le scénario est co-signé par Yasushi Inoue, qui est un extraordinairement grand romancier japonais. Bon, sans doute un de mes préférés, donc je voulais aussi glisser ce petit pan et ce petit conseil de lecture. Quelques mots sur Super Express 109, qui est disponible chez Carlotta Film. Et d'ailleurs, il y a aussi le coffret de la trilogie de la Track, dont on va parler aujourd'hui, qui est aussi disponible chez Carlotta en Blu-ray et en Ultra HD. Donc, Super Express 109, c'est un film de 1975, un très grand film catastrophe, un train dans lequel il y a une bombe, et cette bombe, elle détonnera si le train descend sous 100 km/h. Est-ce que ce pitch vous dit quelque chose? Parce que, évidemment, ça renvoie à Speed de Yann de Bont. Super Express 109, c'est le film qui inspire Speed, le très très grand Speed de Yann de Bont. C'est aussi un film qui va être en résonance avec Runaway Train de Kontchalovsky, donc un film assez important. Bon, c'est... Il y a la volonté de faire du grand spectacle japonais, du grand spectacle comme moi je n'en connaissais pas. Je suis très... très familier du cinéma de beaucoup de cinéastes japonais comme Kurosawa, et puis comme tous ces cinéastes des années 70-80 dont la très grande collection de DVD Wild Child avait réédité les films, mais je connaissais pas vraiment les films catastrophes, les blockbusters, quoi, les films d'action japonais. Et ben, c'est une bonne manière de rentrer un petit peu dans le genre. C'est habilement fait, hein. La fin est assez excellente, et moi, elle me rappelle Icomicar de Henri Verneuil, avec le ralenti, et puis le mouvement de main de Papillon. J'en dirai pas plus, mais en tout cas, un film nerveux, un film plutôt bien foutu aussi dans son sens visuel de l'action, et comment Junya Sato va mêler des très grandes scènes d'action à quelque chose de plus proche du reportage, comme si on suivait aussi le film d'un point de vue télévisuel. Donc c'est assez bien fait, c'est assez moderne, ça inspire l'extraordinairement bon Speed que tu as vu, ça pour le coup je sais, et Runaway Train de Kontchalovsky que tu as vu et que tu aimes moins, je sais aussi, mais c'est un chef-d'œuvre absolu. Ensuite, j'ai gratté un petit peu parce que je voulais voir d'autres films liés à ce film-là, et j'ai découvert The Bullet Train Explosion, film de 2025 de Netflix, qui est lié à ce film-là, qui est un espèce de remake tout en reprenant des éléments de narration du film de 75 et en essayant de lier les deux films avec une vague histoire de fille qui serait attachée à un des policiers du premier, etc. C'est extrêmement mal écrit, c'est plutôt très mauvais, mais le générique épileptique vaut le coup d'œil. C'est visuellement complètement surexposé, il y a un côté étalonnage gris blanc fade qui manque de relief, et ça met vraiment en perspective le film de Sato. C'est intéressant parce qu'entre 2025 et 75, il y a 50 ans, et en fait, le film de Sato met à la ramasse de Bullet Train Explosion. Et puis, arrive ce coffret chez Carlotta Film avec trois remasters de ce qu'on appelle la trilogie de la Track. Trois films qui datent de 1976 à 1978 qui se suivent. Et le premier de ces trois films, bien qu'il n'ait rien à voir, hein, il se suit en date, s'appelle Chasse à l'homme, la rivière de la rage. Et tout de suite, je laisse le micro à votre Charles préféré.
Merci Thomas pour cette belle introduction. Peut-être avant de parler du film, j'ai quand même donné le pitch. Donc c'est l'histoire d'un procureur, donc on va dire que c'est l'avocat de la défense ou de l'attaque au Japon, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait partie d'une certaine hiérarchie, qui travaille dans le milieu de la loi, effectivement, au Japon, et qui va se faire, on va dire, piéger par des gens qui lui veulent du mal pour qu'il aille en prison. Et bien sûr, il va s'enfuir et essayer de rétablir la vérité. Alors, ce pitch est d'une simplicité presque limpide. Malheureusement, pour ma part, je n'ai pas beaucoup apprécié le film parce que c'est tout simplement un joyeux et grand bordel. Je pense que si je l'avais vu avec des potes, peut-être que ça m'aurait un peu plus aidé à faire passer la pilule. Mais là, en tant que tel, le film est vraiment trop bordélique pour qu'il soit agréable à regarder. En plus, qu'il soit, enfin, il dure 2h20 et donc il est vraiment extrêmement long. Pour faire simple, peut-être que Thomas aura des choses plus intelligentes à dire que moi, mais imaginez bien que c'est quelqu'un qui va s'enfuir. Sauf que, en fait, on se rend très vite compte que le postulat de départ, en fait, des gens qui l'ont dénoncé, en fait, c'est pour un vol d'appareil photo et un vol de portefeuille. Et finalement, on voit que les gens sont en couple. Et que, enfin bon, il y a tout un truc, on va dire, en termes de scénario qui ne marche pas du tout. Donc le postulat de base, pour moi, est un peu raté. Et en plus de ça, après, ça part dans des délires de... Il va dans la forêt, il y a un ours, mais donc un ours, bien sûr, c'est un comédien qui est déguisé en ours. Puis après, il y a une course-poursuite à cheval. Puis après, il y a des combats, et en fait, ça va tellement dans tous les sens... Que j'ai plus l'impression d'assister à un nanar que vraiment un grand film, on va dire, populaire japonais. En tout cas, de comment on me vend cette trilogie. J'avoue, c'est le premier que j'ai regardé et c'est celui qui m'a le plus interloqué.
Alors j'avoue que tu m'avais un peu prévenu, donc moi je m'étais préparé à voir un nanar, et en fin de compte, les 9 premières minutes du film, hein, je l'ai minuté, m'ont énormément plu, mais ça bascule à la 14e dans un nanar considérable, avec des moments de bravoure assez puissants. Mais c'est vrai que l'ouverture du film, j'ai adoré, avec cette femme qui apostrophe un policier et qui va dénoncer Ken Takakura, hein, qui est vraiment l'acteur principal des 4 films de Junya Sato, les 3 dans le coffret et le film Express 109. Et donc qui va apostropher ce policier et puis pointer du doigt Ken Takakura, qui est tout simplement en train de téléphoner dans une cabine téléphonique, en disant qu'il l'a volé et plus tard violé. De là, nous, en tant que spectateurs, comme lui, c'est le héros, on se doute qu'il n'est pas un sale type, hein, que ce n'est pas un anti-héros comme dans les grands films, du Nouvel Hollywood des années 70. Hein, mais on se doute qu'il est piégé, donc ça rend d'autant plus les 9-10 premières minutes assez intrigantes. Mais c'est vrai qu'après, ça bascule dans un espèce de un peu n'importe quoi, film qui va dans tous les sens, film... Où la musique aussi, et je pense qu'on en reparlera, mais Junya Sato, il a quand même un rapport à la musique qui est particulier. Moi, je pense que c'est un peu le point noir de sa filmo. Il a toujours des musiques un peu en décalage avec ses images, mais pas forcément d'une bonne manière. C'est pas un décalage qui sert le film, c'est un décalage qui ridiculise un petit peu les images qu'on voit. Et là, c'est vraiment un peu la continuité de ce film-là. Bon, c'est un film où on apprend à piloter un avion en 14 secondes.
Mais ce que je trouve... finalement, il a, je sais pas s'il a eu de l'avance ou en tout cas dans l'air du temps de savoir si oui ou non on peut piloter un avion s'il n'y a plus de pilote. Je trouve que c'est un truc assez mascu qu'il y a dans le film et qui je trouve finalement assez intéressant.
Ouais, ça m'a aussi évidemment fait penser. Tu fais référence à la recherche
à la trend,
la recherche qu'il y a eu sur si vous demandez, et d'ailleurs faites l'essai si vous ne connaissez pas, si vous demandez à un homme autour de vous s'il serait en capacité de faire atterrir un avion qui s'écrase, et vous verrez que la majorité des personnes dirait oui, alors que
la
évidemment.
La majorité des hommes,
oui, absolument. Oui, oui, tu as raison de me reprendre. Alors que évidemment, bah, pas du tout. Hein, je veux dire, si l'avion s'écrase, bon courage. Dans ce film-là, vous apprenez à piloter un avion en 2 plans et 14 secondes. Mais quelques morceaux de bravoure. Tout de même, et moi j'aimerais les souligner parce qu'il y a quand même une fuite à cheval dans les rues de Tokyo, faite sans effets spéciaux, avec des chevaux de nuit qui tracent dans les rues, et ce serait James Cameron à New York que tout le monde crierait au génie. Donc je crie tout de même au génie pour cette scène que j'ai trouvée vraiment très bonne, je dirais pas au génie, mais en tout cas très très bonne. Et voilà, il y a ce côté... Ponctuellement, dans les films de Junya Sato, il y a des moments très réussis. C'est pas son meilleur du tout. Mais la fin, et je pense que peut-être on va revenir dessus, mais la fin de ce film-là, et qui ouvre d'ailleurs sur les idéaux de Junya Sato vis-à-vis des institutions japonaises, la fin est intéressante parce que, je vais vous spoiler le film, hein, le procureur, qui est donc quelqu'un qui défend la justice, et un flic, décide d'exécuter le méchant à bout portant parce qu'ils savent très bien qu'il pourra éviter d'être... en gros, si on l'emmène en justice, il gagnerait son procès et il pourrait ressortir et refaire des crimes. Et donc, ils mettent fin à ça en le butant. Ça, moi, ça me semble assez étonnant, quoi.
Mais ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la filmographie, en tout cas dans les trois films qui sont présentés dans ce coffret. Effectivement, il y a une espèce de défiance vis-à-vis de la justice, et en tout cas de la justice japonaise, on va dire étatique, ou en tout cas de... telle qu'elle est présentée. Et donc, du coup, il y a des espèces de francs-tireurs qui sont contre ça, contre l'establishment, et qui vont en fait lutter vraiment... contre tout ça, mais
là ils en font partie, c'est ça qui est intéressant.
Bah en fait lui il en fait partie, mais après du coup vu que la justice le déçoit, la justice montre oui bien sûr, mais le film montre que en fait la justice lâche ceux qui mériteraient d'être défendus. C'est un peu une des morales du film, et donc du coup à la fin bien sûr si la justice déçoit autant la faire nous-mêmes. Mais ça c'est si le film était limpide. Et malheureusement, là, on vous a dit, attendez, on vous a dit, la course-poursuite à cheval dans Tokyo, piloter un avion alors que tu sais pas faire, tuer un ours ou chasser l'ours qui revient deux fois. Et encore une fois, l'ours, il est déguisé. Donc, il y a une espèce de chasse à l'homme où il se cache aussi dans une grotte. On vous l'a pas dit, mais aussi à un moment, il est interné dans un asile psychiatrique.
Ouais, toute la dernière demi-heure.
Enfin, il y a un moment où on se demande, on a l'impression d'être téléporté d'un film à un autre, en fait. Ce qui rend la chose pas très digeste. Et encore une fois, si le film avait duré une heure et demie, je me serais dit que c'est un nanar généreux. Et là, au contraire, je me dis que c'est poussif et qu'au contraire, c'est quelqu'un qui a pas su choisir et qui donne, qui donne, qui donne, sans savoir trop quoi dire. Mais d'avoir vu les films dont on va parler après, on voit que quand même, effectivement, le réalisateur a quand même un fil rouge et il tient quelque chose, effectivement, sur... ce qu'il pense du Japon et ce qu'il pense de la justice au Japon et même en fait de ce qu'il pense de l'état en global du Japon à ce moment-là.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Quelques derniers petits détails, hein, c'est beaucoup mieux expliqué dans les bonus de Moro, hein, mais en fait c'est un film qui va exister et qui va être un mix entre le studio de la Daei et qui vont faire appel aux équipes de la Toei pour faire ce film. Et ça c'est un cas assez unique je crois, ou en tout cas très rare au Japon. C'est un budget de à peu près 500 millions de yens, ce qui est beaucoup pour l'époque, hein, énorme, et qui va être un flop colossal au Japon, puisqu'il fera à peine 300 millions de revenus je crois nationaux, enfin de revenus nationaux, mais en tout cas énorme flop, à l'exception de la Chine, où ce sera en fait le premier film étranger distribué en Chine après la révolution culturelle. Voilà, film important résultat en Chine et qui fera de l'acteur principal une énorme star dans ce pays jusqu'à sa mort, hein, vraiment. Et puis, dernier petit détail, je ne l'ai pas vu, mais John Woo a fait un remake de ce film en 2017 qui s'appelle Manhunt, sur lequel il appuie sur la relation d'amitié entre le policier et le procureur, qui est donc traqué. Voilà pour ce premier film de la traque, ou tu as d'autres choses à ajouter ?
Non, je pense qu'on peut passer à la suite, parce que c'est certainement, du coffret, c'est certainement le film le moins intéressant...
Ce deuxième film, c'est La preuve d'un homme, hein, qui moi est mon préféré du coffret, film de 1977, et qui raconte l'histoire d'une enquête, hein, d'un jeune afro-américain qui est poignardé à Tokyo. Et résultat, on part sur une enquête qui a lieu dans deux pays différents, les États-Unis et le Japon. Et pour moi, ça c'est une des grandes forces du film. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu d'abord ce que tu en penses, et puis après, je reviendrai aussi sur ce que j'en pense.
C'est pas encore mon préféré. Je pense que j'ai préféré le troisième film dont on va parler plus tard, mais celui-ci est déjà vraiment à une stratosphère d'écart du premier film. Là, au moins, c'est à peu près bien écrit, je trouve, même si je trouve que l'enquête en elle-même traîne un peu et patine beaucoup et des choses... J'ai un vrai problème de connaître un peu l'intrigue avant les flics, ce qui leur donne un petit côté incompétent. Et ça, je pense que c'est aussi un problème d'écriture entre ce qu'on nous montre et entre ce que les policiers savent. Il y a un rythme, du coup, qui marche pas à 100%. Il y a aussi des flashbacks dans le film qui sont assez... En fait, Le film est pareil, il fait 2h20 encore. Le film est trop long pour ce qu'il est. C'est un vrai problème avec ce réal. Mais pour le coup, je trouve que le message du film, à défaut d'être délicat, est assez pertinent, puisque ça va parler vraiment du rapport, en fait, vraiment littéralement, entre les États-Unis et le Japon post-Seconde Guerre mondiale. Et non pas seulement en termes de, on va dire, de pays ennemis qui vont se rassembler et faire équipe ensemble, mais même, on va voir dans le film que c'est même dans la chair que ça se passe. Et c'est ça qui fait du film, en tout cas, un objet assez particulier de là, pour le coup, je sais pas à quel point il est pas contre l'establishment japonais, bien que, mais c'est plutôt ce rapport assez dur de qu'est-ce que le pays, qu'est-ce que le Japon est devenu après cette guerre, et la mentalité qui en découle. Et ça, c'est assez beau.
Et surtout, le regard sur les Américains qui est dur, qui est sans doute assez juste. Vraiment, on voit vraiment des GIs tuer dans des flashbacks, tuer des Japonais, violer une Japonaise, pisser sur le visage d'un Japonais qu'ils ont battu à mort. Enfin, il y a toute une imagerie chaotique et du mal des Américains, M-A-L. Le personnage de George Kennedy, hein, qui est un vieil acteur hollywoodien oscarisé, que moi j'aime vraiment bien, qui joue un flic dont on apprend à cause de son tatouage sur la main qu'il a fait partie de ces militaires, donc il a aussi été un salaud. Et ça, c'est vachement intéressant, comment le personnage de policier japonais comprend avec qui il travaille. Et il y a des scènes comme ça qui sont vraiment des scènes d'émotion et de narration très très puissante quand il confronte ce policier américain aujourd'hui, mais qu'il a tous ses souvenirs de cette Deuxième Guerre mondiale qui lui reviennent en tête. C'est des espèces d'équilibre et de déséquilibre qui est vraiment très bien joué. Je trouve aussi que c'est un film qui a du style, contrairement au premier dont on a parlé. Je trouve que vraiment La Preuve d'un homme, même rien que l'ouverture, hein, c'est vraiment Manhattan en plan large, plan hélico, quoi, avec des plans de coupe sur un homme qui compte des billets en plan serré, une musique d'atmosphère. Il y a du style. C'est un film qui ne laisse pas indifférent visuellement. C'est aussi faut pas oublier que c'est des super productions américaines, hein. Japonaises, drôle de lapsus, mais super productions japonaises, mais où il y a aussi un petit peu de travail chez Sato que j'aime bien, de presque de cinéma expérimental, où il brûle un peu ses pellicules, il met des filtres un peu bizarres dessus, parfois il y a du sang, et c'est du sang, on comprend que c'est une surimpression de peinture, en fait, sur des corps. Donc il y a un travail aussi avec la matière qui est intéressant. Et puis, moi j'aime beaucoup le mélange des intrigues. Je trouve pas les intrigues forcément très intéressantes, bien que tu aies envie de savoir pourquoi cet Afro-Américain a été tué à Tokyo. Ça, je trouve ça plutôt fort. Mais après, il y a un mélange. Il rajoute à ça un accident de voiture, un hit and run, un délit de fuite, en fait, hein, comme on dit, qui est vraiment intéressant. Et puis, le personnage de cette femme, qui est la designeuse du défilé de mode qui a lieu parallèlement au meurtre de cet Afro-Américain. Et ce personnage féminin est très, très intéressant. Et je sais pas si tu te souviens, mais pour moi, il y a une scène que je trouve magnifique. C'est une scène quand le fils qui a renversé cette femme se confie à sa mère qu'il a fait un crime, qu'il a fui un accident de voiture. Et là, on est tout d'un coup, on bascule dans un film gothique italien ou anglais. Ça se passe pendant un orage. La mère, elle tient une bougie. Il y a des éclairs qui illuminent leur visage. Et je trouve que c'est un moment qui a énormément de classe, quoi.
Oui, complètement. Bah, de toute façon, le film est vraiment beaucoup plus stylisé, et c'est vrai que cette séquence, mais ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, parce que tu ne l'auras jamais avant, enfin tu ne l'avais jamais vu avant, effectivement, et tu ne le reverras jamais après. C'est vraiment cette séquence qui est comme ça. Mais effectivement, la séquence en elle-même est assez jolie, mais est très particulière, et puis en plus, il y a vraiment un truc mystique où effectivement, dès que la mère parle, c'est vraiment juste après, le tonnerre gronde.
Et surtout, ce qu'elle lui dit. Tu te souviens ?
Oui, oui, non, mais bien sûr, mais... mais de toute façon, il y a aussi un rapport, parce que, alors attention, on va peut-être, on spoil, on va toujours pareil, c'est vrai qu'on On a l'habitude de spoiler, mais c'est toujours bien qu'on vous le redise. Mais en gros, du coup, ce qui est intéressant, c'est que cet Afro-Américain qui meurt au début, en fait, il va au Japon pour retrouver sa mère, qui est en fait japonaise. Et il se trouve que, bien sûr, alors c'est là, moi, où je trouve, c'est à la limite du scénario, c'est qu'en fait, quand même, ça tombe bien, tout le monde se retrouve au même endroit, au même moment, 40 ans plus tard, quoi. C'est assez particulier. Mais en gros, en tout cas, en fait, la mère, avec son fils criminel qu'elle protège, en fait, va y avoir un autre rapport avec justement cet Afro-Américain qui se trouve être aussi son fils. Et donc il y a ce rapport-là qui est assez étonnant, mais qui est aussi assez intelligent finalement, sur qui protéger et qui ne. Enfin, qui on protège ou pas. Et là, on va protéger le fils, qui est le fils de sang, mais qui est un criminel endurci. Enfin, un criminel endurci, peut-être pas, mais un criminel en tout cas, puisqu'apparemment, il a déjà volé avant, il a déjà vendu des artefacts, des choses, contre un fils qui recherche tout simplement de l'amour. Il y a tout comme ça, un parallèle qui est assez, assez puissant. Et il y a, de toute façon, effectivement, tout un. En tout cas, j'avoue, moi, c'est là où j'ai trouvé le film intéressant, c'est en faisant des recherches, c'est qu'il se trouve que cet Afro-Américain est joué par Joe Yamanaka, qui a un groupe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Flower Traveling Band, qui est un groupe de rock japonais des années 70, et il se trouve que lui-même est métisse, ok ? Et un autre personnage, qui est en fait le flic, qui est joué par Yuzaku Matsuda, est lui aussi métisse, il est coréen et japonais. Et il se trouve qu'il a caché son identité coréenne au Japon parce que ça pouvait potentiellement le blacklister, parce que le Japon de l'époque était pas hyper sympathique vis-à-vis de tout ça. Et du coup, il y a...
Le Japon a occupé la Corée.
Non, mais donc, du coup, oui. Mais donc, du coup, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, le Japon, c'est compliqué. Et... non, mais en tout cas, il y a cette chose assez intéressante où, du coup, les acteurs dans leur chair même ont des problèmes avec des pays, d'autres pays que le leur, entre guillemets. Et c'est aussi ce qu'on retrouve en fait à travers ce film. C'est-à-dire ces Japonais qui ont du mal avec les États-Unis ou un Américain qui a du mal avec ses racines américaines et qui va essayer de retrouver ses racines au Japon. Et donc, il y a comme ça une espèce de tiraillement tout au long du film sur les origines, sur la détestation de soi, la détestation de l'autre aussi. Et ça donne un film, encore une fois, qui intellectuellement me plaît beaucoup, finalement, surtout en faisant des recherches, en creusant un peu, mais qui, quand je le vois, me donne pas encore totalement du plaisir comme je le voudrais.
Mais tu vois, il y a peut-être un problème qui, je pense, c'est vraiment, je l'ai déjà dit, mais un problème récurrent chez Junya Sato, un problème avec le décalage avec la musique. Là, on a encore une musique jazzy, groovy, et on a en fait un récit qui est très sombre, très noir. Un récit qui, je crois que c'est encore Moreau, Fabien Moreau, qui en parlait dans les bonus du premier film dont on a parlé, enfin du premier film de la trilogie dont on a parlé, qui expliquait en fait que il y avait des thématiques proches des films de Pakula. Et c'est assez intéressant parce que effectivement, il y a des thématiques.
Mais en moins bien écrit, moi aussi, j'ai pensé aux hommes de prison et des choses comme ça. Mais c'est.
Bah, en tout cas, il y a toutes ces thématiques, de films paranoïaques. Et je pense que si tu prends ce film-là, La preuve d'un homme, et que tu remplaces la musique jazzy groovy par une musique vraiment beaucoup plus sombre, beaucoup plus minimaliste, ça apporte peut-être la couche supplémentaire au film parce que toutes les scènes sont là et elles sont plutôt très réussies. Il y a la scène de la mère et du fils. Ouais, tu veux rebondir?
Non, vas-y.
Et par exemple, il y a la scène, il y a une autre très très bonne scène de course-poursuite entre le policier japonais et le policier américain qui enfin en dernière partie du film se retrouve dans le même pays et qui traque un autre japonais et George Kennedy, l'acteur américain, sort son flingue et le descend et le policier japonais se tourne vers lui et lui crie dessus: vous appelez ça être un homme? Combien de japonais allez-vous encore tuer? Et tout ça, c'est des scènes qui sont extrêmement denses de ce que tu dis, des rapports entre les humains, de ce conflit qui a opposé le Japon aux États-Unis et de ce qu'il en reste chez ces policiers dans les années 70. C'est dommage parce que la noirceur du récit, elle existe, mais elle n'est pas servie par la musique. Et résultat, ça crée un drôle de décalage. Quand il voit, quand le flic japonais voit sur la main de son collègue américain le tatouage d'un hippocampe qui le rappelle une scène de bastonnage à mort et de viol avec un GI's américain qui avait le même tatouage, donc on comprend pendant la guerre que c'était le même gars. S'il n'y avait pas cette musique où tu as l'impression d'être dans un bar lounge, tu vois, en train de chiller à New York, ça créerait quelque chose, tu vois ou pas ce que je veux dire? Je me suis presque dit qu'il fallait couper parfois le son.
Moi, je pense que surtout, il aurait fallu couper certaines séquences qui sont beaucoup trop longues. Mais en dehors de ça, oui, il y a des. C'est pas sur ce film-là, mais sur le premier film, il y a des musiques qui ressemblent, mais étonnamment, à Bob l'éponge. Mais littéralement. Mais parce que j'ai regardé le film avec ma copine, et vraiment, à un moment, elle s'est endormie. Mais à un moment, elle s'est arrivée, elle a fait. Mais tu regardes Bob l'éponge? J'ai fait non, c'est toujours le film japonais, quoi. Et parce que, effectivement, il y a un décalage, mais qui est fort, parce que c'est de la musique, donc c'est ce qu'on appelle la fusion, donc c'est du jazz mélangé avec des petits trucs un peu pop, enfin, le style de musique japonais des années 70 qu'on peut aussi entendre dans certains mangas, peut-être que vous connaissez. Mais du coup, la musique crée un décalage qui ne marche absolument pas, je suis d'accord, mais je pense que ce n'est pas le seul problème, c'est-à-dire que quand même, moi aussi, ça m'a fait penser à Pakula. Ça m'a fait penser, forcément, quand tu regardes ces polars des années 70, ça te fait forcément penser, ou ces intrigues politiques, ça te fait penser à ça, forcément, parce qu'on a été nourri aussi par ce cinéma américain. Mais malheureusement, pour ce film-là, je trouve, l'écriture n'est aussi pas totalement au rendez-vous.
Allegre FM 93.1.
Pakula même si ces films on peut les trouver longs ce qu'on veut, mais c'est que l'intrigue est quand même resserrée et un peu tassée. Là, sur 2h20, il y a des moments, parce que encore une fois là on parle de ça fait des flashbacks effectivement sur la colonisation, enfin pas du tout sur la colonisation, mais pardon, sur plutôt les Américains en terre, l'occupation, merci, sur l'occupation américaine post Seconde Guerre mondiale. Mais donc ça va parler des viols des GI, effectivement ça va parler aussi d'humiliation, parce qu'effectivement ils leur pissent dessus, puis ils tuent quelqu'un. Et en fait il y a aussi cette intrigue de, en fait, finalement ces flashbacks, ça montre que en fait le flic était là, enfin, qui était militaire dans les années 40, en fait, c'est bien le même aujourd'hui. Et en fait, il a violé la femme, ce qui a donné l'enfant. Il a aussi tué le père, ce qui a donné le flic. Et en fait, tu fais, ouais, mais attendez, mais en fait, c'est trop bizarre que ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et en même temps, il y a une intrigue avec le fils de la japonaise qui est un voleur, puis en fait, qui a assassiné quelqu'un. Et en fait, ça part dans tous les sens encore. Et c'est un vrai problème. 2h20, et tu te dis, putain, mais je ne sais pas où je vais. Et heureusement que là, pour le coup, dans ce film-là précisément, il y a ce fil rouge sur, encore une fois, qu'est-ce qui fait, qui on est en fait. Et à cause de qui on est ce qu'on est, entre guillemets. Je ne sais pas si je m'exprime très bien, mais finalement, on voit que même à des milliers de kilomètres, un Américain a changé la vie de, possiblement, une population entière, finalement, parce qu'il a ruiné la vie de pas mal de gens. Et en même temps, ça construit quelque chose. Et en même temps, de l'autre côté, il y a un Afro-Américain, ou plutôt un Afro-Japonais, qui essaie de retrouver une culture qu'il n'a jamais trop eue. Et pourtant, il sait parler japonais, il a vécu avec une femme japonaise, justement, à New York, pour apprendre la langue. Donc, il y a comme ça des passements, des passage de flambeau en termes de culture. Et c'est ça qui est un peu, qui tiraille un peu. Et même on voit George Kennedy, donc le flic qui a certainement violé machin, etc. Il a quand même des photos chez lui, des photos du Japon, mais bien plus tard. Donc est-ce que c'est parce que le mec a un côté colon? Est-ce que c'est parce qu'il aime réellement le Japon? Est-ce qu'on sent qu'il a, et il aime les femmes japonaises, parce qu'il est en photo avec des femmes japonaises, aussi avec des enfants, mais... Donc il y a une espèce d'ambiguïté quand même sur... Le film est assez poreux là-dessus, et c'est ça qui est intéressant. Mais malheureusement, le film va dans trop de directions pour que je puisse complètement l'apprécier et comprendre totalement le message, quand bien même le message est quand même très, très, très marqué.
En tout cas, moi, ce qui m'arrive quand j'enchaîne Super Express 109 et La Preuve d'un Homme, moins quand je vois les deux suivants, mais quand je vois ces deux-là, Junya Sato me fait penser directement dans son lyrisme et dans son style qui va être au service d'une histoire dite grand public à Henri Verneuil. Vraiment, quand je vois ces deux films-là, je vois Henri Verneuil. La fin la fin de La preuve d'un homme, avec la mer, la montagne, le chapeau au ralenti qui s'efface dans le ciel, pour moi, ça, c'est du Verneuil. Et je suis hyper frappé par ça. Quand je vois les deux suivants, bon, je comprends aussi que Verneuil a peut-être une résonance aujourd'hui plus importante et sans doute bien plus de style. Et c'est un cinéaste que moi, j'affectionne énormément. Mais dans Super Express 109 et La preuve d'un homme, je trouve qu'on se rapproche de quelque chose qui serait le cinéma de Verneuil en France. Charles, je vais te laisser basculer sur ta chronique musicale.
À l'instant, un groupe que j'affectionne beaucoup qui s'appelle Demon's Clothes. C'est un groupe canadien originaire de Montréal hein, qui s'est formé au début des années 2000 dans un label que j'aime beaucoup qui s'appelle In The Red. Et c'est un label qui fait pas mal de punk. Et là, j'avoue, je tournais un peu en roue ces derniers temps sur la country, je pense. J'avais envie de changer un peu d'air, de changer un peu d'horizon tout en gardant l'esprit, bien sûr, de Popcorn et Banjo. Et en fait, pourquoi je vous ai mis ce morceau-là ? Eh bien, tout simplement parce que dans l'album de Demon's Clothes qui s'appelle The Defrosting Off, qui est sorti en 2010, eh bien, c'est un album complètement punk. Et là, il y a un morceau un peu bizarre, un peu countryisant, qui m'a beaucoup surpris. Et je me suis dit, tiens, je pense que je vais faire ma chronique autour de ça. Parce que, voilà, de temps en temps, je dois bien l'avouer, j'ai une tendance à m'ennuyer, en fait, quand j'écoute des albums. Et voilà, quand il y a 10-12 morceaux, et bien parfois j'ai l'impression que c'est un peu des itérations, ça se répète sans arrêt, donc j'ai pas un peu de sourire, pas un peu de... pas de surprise. Alors je sais bien que tout le monde ne peut pas faire un chef-d'œuvre, hein, ni même de sortir de sa zone de confort, mais en même temps il fait beau, il fait chaud, c'est le mois de mai, j'avais envie de sortir un peu des sentiers battus. Et justement, le deuxième morceau qu'on va passer, c'est un groupe que j'adore, un groupe qui s'appelle Gun Club. J'ai découvert ça il y a quelques années maintenant, quand j'étais vraiment plus jeune. Et Jeffrey Lee Pierce, qui est aux commandes de ce navire, c'est un chanteur incroyable, une présence assez charismatique, hein, en tout cas dans la voix, qui moi, parfois me rappelle le chanteur des Doors, Jim Morrison. Et l'album, moi, qui m'avait fait halluciner quand j'ai écouté pour la première fois The Gun Club, c'est l'album Miami, qui est sorti en 1982. Et où, en fait, on va voir toutes les références du groupe. Donc, ça va osciller entre le punk, le rock, le blues, mais aussi la country. Et c'est justement ce dernier morceau que je vais vous passer, hein, puisque nous allons écouter Mother of Earth, qui est pareil, ça boucle, en fait, ça ferme l'album. Et je me rappellerai toujours de la première fois où j'ai entendu ce son, où je me suis dit, mais vraiment, ça part dans tous les sens. Et en même temps, c'est absolument génial, parce que ils arrivent quand même à garder ce qui fait le son du groupe. Et c'est toujours sympa de voir que des artistes ne sont pas ancrés totalement dans une case ou dans une autre, quand bien même nous, en tant que peut-être spectateurs de tout ça, on aimerait les mettre possiblement dans des cases, mais les cataloguer du moins. Mais on peut voir que dans un monde qui est parfois un peu hiérarchisé, un peu lissé, ou parfois même sans idée, hein, il y a encore des groupes qui peuvent nous surprendre. Alors, ça peut être des vieux groupes comme des nouveaux groupes, hein, j'ai pas de soucis là-dessus. Mais en tout cas, c'est quand même pas mal de pouvoir passer du punk dans une émission de country. Bonne écoute.
Down the river of sadness, I'll go down the river of pain. In the dark under the wires, I hear the call. I gave you the key to the highway and the key to my motel door, and I'm tired of leaving and leaving. I can't come back. Oh, my dark-eyed friend, I'm recalling you. Soft voices that speak nothing to the end. But yet stay behind the wall. The sadness grows like weeds upon the thighs and knees. Oh, Mother Earth, the wind is high. I tried my best, but I could not. And my eyes fade from me in this open country. Thank you.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et vous êtes sur Aligre FM 93.1, Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country. Et puis pour terminer ce spécial Junya Sato, le troisième film du coffret, la trilogie de la traque, ce film s'appelle Survie en pleine nature. Et alors là, c'est assez intéressant parce que c'est peut-être le film le plus limpide narrativement, bien que tout ne soit pas compréhensible, en tout cas pour moi, mais à mes yeux, quoi. Mais ça semble être celui qui est le plus limpide. Hein. L'officier des forces spéciales Ajisawa provoque malgré lui la mort de deux personnes au cours d'une expédition. Pris de remords, il décide de quitter l'armée et de changer de vie, non sans avoir juré à ses supérieurs de ne jamais révéler la vérité sur cet incident. Trois petits points. Charles, je te laisse le micro. Toi, je sais que c'est ton préféré. Et moi, c'est mon second préféré. Voilà.
Oui, c'est marrant parce que finalement, ça parle pas vraiment de ça. Et puis, c'est, c'est quand même étonnant. Hein, ils arrivent jamais à exactement faire les pitchs pour les trois films. C'est fou. Peut-être parce qu'à chaque fois, ils durent 2h20. Voilà. Mais ouais, non, celui-là, c'est vraiment mon préféré. Alors, je sais que j'ai toujours l'air très critique, et c'est le cas de toute façon. Mais vraiment, le deuxième, je l'ai vraiment apprécié.
La preuve d'un homme,
je l'ai vraiment apprécié. Mais j'avoue, Survie en pleine nature, qui porte très mal son nom, parce qu'il n'y a aucune survie et on n'est jamais dans la nature.
Le début et la fin.
Ouais, 20 minutes, quoi. Allez. Non, mais sincèrement, c'est pour moi le film, effectivement, le mieux écrit. Mais parce que ça va dans une seule direction et c'est très agréable, même si, bien entendu, à un moment, il y a quand même de la mafia, il y a quand même des gens riches, il y a quand même des machins. Bon, bah, c'est pas grave. Au bout de trois films, en fait, on commence à avoir l'habitude, en fait, du petit zozo, là. Donc, finalement, c'est pas très grave. Mais, pour le coup, ce que j'ai apprécié avec ce dernier film qui ferme cette trilogie de la traque, moi, c'est vraiment le côté, en fait, un peu Rambo qui se dégage du film. Alors, même si le côté Rambo est pas totalement présent, je trouve que les scènes d'action m'ont vraiment carrément plu. L'introduction sur ce truc d'entraînement hyper. Alors, il y a des espèces de. Parfois, on a l'impression que le réalisateur a eu des pensées intrusives et d'un coup, il les met à l'image. Et par exemple, dans l'introduction, donc on voit un entraînement militaire. Alors il y a des gens qui, je sais pas, ils sautent à la corde, ils font de la tyrolienne. Et puis d'un coup, il y a un gars qui se mange le bras. Et puis après, bon, ça tire sur des cibles. Et on passe à autre chose. Et on comprend pas très bien ce qui se passe. Et puis après, il y a un massacre de village. Et il y a quelque chose comme ça d'assez, en fait, d'assez cruel et d'assez instantané dans ce film-là que j'ai beaucoup aimé, que je ne retrouve pas exactement dans les autres parce que. Dans les deux premiers films, cette intrigue un peu policière donne des films qui sont presque un peu au ralenti, alors qu'ils auraient mérité d'être un peu plus au cordeau. Alors que dans celui-ci, je trouve que le rythme marche plutôt bien, la musique marche toujours pas par contre, malheureusement. Mais dans l'ensemble, j'ai plutôt apprécié ce film-là.
Non, et surtout, il y a une violence dans ce film-là qu'on retrouve pas dans les autres. Hein. Une violence plein cadre, avec des assassinats, des meurtres, avec des giclées de sang, des décapitations, des amputations, des meurtres d'enfants. Mais moi, quand je vois ce film, j'ai l'impression de voir un film de genre, série B américaine, un peu brute. Mais en fait, c'est de la série A japonaise pour grand public. Et c'est vrai que en parlant en direct de ça, je me rappelle aussi d'où vient le Japon dans son imagerie, quoi, et les mangas ultra-violents, et le Shambara, et le fait qu'il y ait une habitude comme ça de l'ultra-violence à l'écran. Mais c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude aujourd'hui de... Enfin, il y a un côté un peu... tout d'un coup, c'est... je sais pas, c'est le soldat Ryan condensé dans un pauvre village avec des civils qui se font massacrer à coups de hache... en plein écran, quoi. Et ça, c'est assez troublant. Et effectivement, après, moi, j'ai bien aimé ce côté... l'ouverture et la dernière partie dans la forêt, le mode survie, le côté Rambo, avec cet ancien des forces spéciales qui traque et qui tue 22 autres forces spéciales des forces d'autodéfense japonaises. Les forces d'autodéfense, je fais une petite parenthèse, mais je trouve que c'est très intéressant, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, le Japon n'a pas le droit d'avoir une armée. Ils n'ont pas le droit d'exporter des armes non plus, il me semble. Et c'est quelque chose qui est en train de changer en ce moment, parce qu'ils sont sous embargo et ils sont surtout sous protection militaire américaine. Le Japon, c'est un des pays où il y a le plus de bases américaines autres que les États-Unis. Et donc leur armée s'appelle les forces d'autodéfense. Voilà, c'est une armée plutôt mineure. Et les choses sont en train de changer aujourd'hui parce qu'ils ne veulent plus dépendre des troupes américaines et que les troupes américaines ne veulent plus tout à fait non plus s'occuper de la défense japonaise. Bref, dans ce film-là, on voit bien le concept des forces d'autodéfense. Et d'ailleurs, il y a une réplique assez marrante avec un des personnages du film qui est fier de participer aux entraînements militaires, d'être témoin de ces entraînements, et qui dit notre armée, nos forces d'autodéfense sont les plus fortes, il est très fier et tout. Et puis il y a le chef des forces d'autodéfense qui lui dit à côté, oui, mais n'oubliez pas que si on se fait envahir, au bout de 3 jours, nous n'aurons plus de quoi nous défendre. Et ça, c'est vraiment une grande question japonaise, d'autant plus que les Japonais ont un rapport à la paix. Ils ont fait un espèce de trop-plein de la guerre et de leur passion pour l'ultra-violence aussi dans la vie, avec toute l'historiographie des samouraïs, etc. Ils ont un peu mis toute cette histoire de la violence derrière eux, et donc c'est très compliqué aujourd'hui de recruter, etc. Et tout le rapport à l'armée est très complexe dans ce pays. Bref. Dans Survie en pleine nature, on a cette omniprésence aussi. Nous, on était assez bluffés, Charles, de le budget est sur l'écran. Ce qui se sent aussi dans Super Express 109, ce qui peut-être se sent un peu moins dans les deux autres, bien que le premier Chasse à l'homme soit quand même assez généreux. Mais peut-être La preuve d'un homme, ça se sent un peu moins. Mais dans Survie en pleine nature, on a un moment dans un plan 8 tanks et quoi, 4 hélicoptères et puis 300 soldats, quoi.
Je les ai comptés, effectivement. C'est à peu près ça. Et c'est vrai que c'est très, très impressionnant à voir à l'écran parce que, en fait, on a maintenant l'habitude de voir tellement d'effets spéciaux que de voir ça à l'écran, et ben mine de rien, ça impressionne toujours de voir des choses qui ne sont pas en CGI, même pas en carton-pâte. Là, c'est vraiment, il y a littéralement 8 tanks qui foncent, 4 hélicos de l'armée, et il y a vraiment une centaine d'hommes sur la colline, et tu les vois arriver comme ça au loin, donc on voit juste le type un peu, et puis hop, ça bombarde. Et c'est assez impressionnant, et même du coup, la fin est assez jolie aussi du film, puisque on voit vraiment une espèce d'armée de tanks arriver sur notre pauvre personnage principal.
Ce ne sont pas des maquettes.
Ah non, il n'y a aucune maquette, sauf bien sûr quand un hélico explose, parce qu'ils n'ont pas fait exploser un hélico. Ça, je pense qu'il n'y a que Coppola qui aurait pu faire ça. Mais...
Ouais, tu m'étonnes. Et puis un film aussi qui est en résonance un petit peu avec La vengeance de la sirène. Parce qu'il y a aussi donc La vengeance de la sirène, film de Ikeda, extraordinaire, et il y a aussi ce côté où c'est une... Vas-y, dis-moi.
Non, mais que vous pouvez retrouver notre critique de La vengeance de la sirène dans la saison 1 de Popcorn et Banjo et dans l'épisode 4.
Et un film qu'on avait adoré et qui vraiment parlait de ce petit village japonais et cette femme qui pêchent des ormeaux, vous savez, ces pêcheuses japonaises qui pêchent en apnée, et puis ces sirènes en fait, et qui se retrouvent à déclencher une espèce de guerre contre une grande industrie anti-environnementale qui s'installe sur l'île. Et il y a un peu des points communs dans Survie en pleine nature avec cette espèce de grande, super puissante entreprise qui s'installe, qui bétonne les villages et la forêt en fait, et puis tout d'un coup une petite fille qui survient à un massacre et qui fait obstacle à cette entreprise, et donc une fois encore Junya Sato qui montre son mécontentement des institutions japonaises, des entreprises, de l'armée, puisque toute la dernière partie c'est quand même l'armée qui est aux côtés de cette entreprise contre nos héros. Donc un film qui est étonnant aussi dans cette trajectoire là
Oui, complètement. Bah, on sent encore une fois une espèce de Pour un film qui est effectivement théoriquement grand public, on peut retrouver dans ces trois films une espèce de radicalité et une énorme défiance vis-à-vis de toute forme d'institution et de toute forme de pouvoir, surtout au Japon. Ce qui fait que donc, il a vraiment tapé la justice, l'armée, justice, armée et les grands et les grands pontes, on va dire, et les millionnaires qui font aussi le pays et qui est toujours un débat aujourd'hui avec les Zuckerberg, etc. On voit bien que, dans ce film-là, il y a un vrai danger, et surtout, en tout cas, ce personnage, ce grand méchant qui a un fils unique et qui essaie de protéger par-dessus tout, montre aussi quelque chose, c'est-à-dire que les gens... Donc, il détient le pouvoir sur l'armée, il détient le pouvoir sur les habitations des gens et sur, du coup, la communauté, et en même temps, l'armée où des gens peuvent potentiellement mourir quand même, c'est le principe quand même quand on part en guerre ou qu'on fait de l'autodéfense, comme disent les Japonais, mais son fils à lui, il le dit à un moment, non, c'est mon fils unique, lui, il ne fera jamais l'armée, parce qu'il veut le protéger. Donc ça montre aussi que quoi qu'il arrive, les puissants peuvent se protéger et ne feront jamais la guerre, ils sont toujours derrière un bureau, parce qu'ils le peuvent. Et c'est en même temps assez touchant, parce qu'on sent qu'il est vraiment... il aime foncièrement son fils et qu'il le protégera quoi qu'il arrive, même si son fils est une sale ordure, un peu comme son père, tu me diras. Mais du coup, même le méchant a quelque chose d'assez puissant, parce que à la fin, quand il apprend que son fils est potentiellement mort, en tout cas qu'il lui arrivait quelque chose, il a deux doigts de sauter de l'avion pour et arrêter tout pour le retrouver, quoi. Donc c'est le réalisateur n'enlève pas le côté humain de ces personnages-là, et justement au contraire, il montre que c'est parce que l'humain est là qu'il y a de la corruption, malgré le fait qu'ils restent malgré tout sentimentaux ou ce qu'on veut, quoi.
Et je sais qu'on fait beaucoup de, en tout cas je fais beaucoup de comparaison, ce qui n'est pas forcément quelque chose que j'aime faire en général, mais la fin de Survie en pleine nature, pour moi, me renvoie directement à Sam Peckinpah d'une manière extrêmement touchante, et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé la fin. Rien que pour ça, je trouve que c'est un film à voir. Voilà, la trilogie de la traque disponible chez Carlotta Film, et puis Super Express 109 aussi disponible chez Carlotta Film. 4 films pour découvrir Junya Sato, un des très grands cinéastes japonais de films d'action, de blockbuster japonais, super, au budget détonnant. Le prochain épisode de Popcorn et Banjo sera sans doute un hors-série animation, sous la tutelle de notre cher Charles, comme l'année précédente. Et puis ensuite, cet été, nous vous emmènerons du côté des vidéoclubs avec des films qui nous ont marqués, des films de VHS, des films importants des années 90. Et on refera peut-être un saut dans l'animation pour terminer l'été. Popcorn et Banjo, la 21e, c'est fini. Et on vous souhaite une belle journée. Et puis à bientôt.
Salut!
Vous écoutez Allegre FM 93.1.